qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. Ta présence.
Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok?
Ça peut couler, hein.
On en parle.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Toutes les deux portent un uniforme, l'une pour sécuriser un périmètre, l'autre pour rassurer les inconnus dans le ciel. Deux héroïnes, deux solitudes contemporaines. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Cassandre, une jeune hôtesse de l'air dans une compagnie low cost, enchaîne les vols sans attache et comme une fuite en avant. Bonjour Adèle Exarchopoulos.
Bonjour.
Vous êtes cette jeune femme, ce grain de sable dans le rouage de la grande machinerie standardisée, le low cost. Pour symboliser une époque, c'est l'une des grandes idées de ce film, Rien à foutre. Bonjour Emmanuel Maher.
Bonjour.
C'est votre premier long métrage co-réalisé avec Julie Lecoustre. Il sortira le 2 mars prochain. Elle, je le disais, sécurise des périmètres, agent de sécurité, au service d'une star de cinéma fatiguée. Bonjour Déborah Lokoumouena.
Bonjour.
Vous êtes Aïssa dans ce film robuste, douce et solide, face à Gérard Depardieu. C'est un premier film. Bonjour Constance Meyer.
Bonjour.
Oui, votre première réalisation est sur une drôle de rencontre. Robuste sortira aussi le 2 mars prochain. Enfin, les films de ce mercredi avec les pop-corn, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne sais pas. Non. D'un autre monde à une vraie famille. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Tea, coffee, snacks. Tea, coffee, snacks, anything to drink, anything to eat. Tea, coffee, snacks. Tea, coffee. Would you like some coffee, some tea? Anything to drink, anything to eat. Tea, coffee, snacks.
Voilà ce que Cassandre répète à l'infini dans ce vol low cost, une jeune hôtesse de l'air, aux conditions de travail et de rémunération misérables. C'est un métier qui fait quand même rêver. Cassandre, dans ce film Rien à foutre, naît d'une double image. Emmanuel Maher, vous, dans un avion, en train de regarder une hôtesse. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, non, en fait, j'étais sur un vol low cost et il y avait du surbooking et je me suis retrouvé en face des hôtesses sur leur jump seat. Et ce jour-là, il y a une des hôtesses qui était assez jeune et qui, je pense, traversait un des moments les pires de sa vie. Et c'est toujours un moment étrange quand on est face à quelqu'un dont on perçoit la détresse sans la connaître. Et ce qui nous a fascinés avec Julie, c'est que, en fait, dès que la sonnerie de service a commencé, elle a complètement effacé toutes ses émotions pour laisser place à un sourire, le sourire commercial. Et en fait, ça nous, c'est marrant parce que cette image nous faisait presque penser à un tableau de Hopper. Je pense que s'il était aujourd'hui Edward Hopper, il aurait pu peindre un tableau qui s'appellerait L'hôtesse de l'air sur son jump seat. Et on s'est dit, bah, en fait, on va essayer d'inventer l'histoire de cette jeune femme parce qu'elle nous semblait symboliser une ultra moderne solitude et de savoir ce qu'elle avait laissé au sol, qui elle avait laissé au sol. Voilà, qu'est-ce que c'était son quotidien, juste faire une chronique d'elle pendant 2 heures.
Ce que vous décrivez comme image, moi, ça me fait aussi penser à une actrice avant une prise. Ça pourrait être ça aussi.
Pas moi, en tout cas. Oui, il y a quelque chose de similaire dans le masque et dans le fantasme que les gens ont de ce métier.
Et mettre un masque de sourire ou autre en fonction de la scène. À partir de cette image, donc vous avez imaginé la vie de cette fille et vous avez énormément enquêté avec Julie Lecoustre. Presque, j'ai entendu 4 ans de préparation. 4 mois de repérage. Vous vouliez absolument avoir le vrai contexte de ces compagnies low cost.
Il y avait déjà le fait d'être juste, parce qu'il faut, si on parle d'un métier, surtout quand on en parle de manière dure, on peut pas se permettre d'être imprécis. Et après, je crois que c'était pas que d'une question documentaire, c'était aussi une question d'avoir des ressources précises pour que le spectateur puisse ressentir tout ce que vit Cassandre, parce que parfois dans un geste, dans la façon dont on ferme les loquets des coffres, parfois il y a plus d'émotions qui peut passer que en fronçant les sourcils. Donc c'était aussi pour que Adèle puisse avoir des outils pour exprimer des choses sans avoir à les verbaliser, quoi.
Adèle, vous avez plongé effectivement carrément dans ce film. C'est un film qui s'est beaucoup écrit en direct, qui a été tourné dans les vrais avions.
Ouais.
Des vrais vols avec des gens engagés pour être passagers et avec une formation solide, j'imagine, non, de l'hôtesse de l'air.
Alors, j'ai juste fait une formation pour la technique où on faisait peut-être 4 vols par jour, parfois des vols vides, mais pour tout ce qui est technique, sécurité, vente, enfin tout ce que je connaissais pas et que, pareil, j'avais complètement fantasmé. Et puis après, ce qui m'a beaucoup nourri et aidé, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur ce film qui m'ont entouré, qui jouaient leur propre rôle. Et du coup, de passer mes journées avec eux et d'être dans une formation un peu quotidienne, ça ramène très vite à quelque chose d'ancré et de réel. Et puis après, pour justement tout ce que je savais pas de ce métier, sincèrement, il y a quelque chose qui m'a débloqué sur le tournage qui était assez anodin, c'est qu'un jour, on décollait et il y a la directrice de mon fils qui m'appelle. On appelle rarement quand c'est des positifs, oui. Il s'est super bien comporté, donc je savais que c'était compliqué.
C'est vrai, c'est souvent.
Et j'ai pas pu décrocher, parce que ça y est, on allait décoller, on allait tourner. Je me suis dit, bon, là, pendant 4 heures, je n'ai aucune prise sur ma réalité, sur mon quotidien, sur les gens que j'aime, sur mes proches. Et c'est finalement le quotidien de ces gens-là et de cette fonction. Donc ça m'a beaucoup appris aussi.
Beaucoup de films se tournent en avion, Emmanuela, pourquoi avoir ces conditions réelles, effectivement? Vous riez, Adèle.
Déjà, parce qu'on aime bien faire chier les producteurs, ça c'est la base. Je pense qu'il y avait aussi... En fait, on prépare pas du tout une scène ou un tournage quand on a une heure et demie pour tourner, quand on ressent vraiment la pression, quoi. Et je pense que t'as vraiment, ce jour-là, on a tous senti ce que c'était la pression d'un vol, quoi.
Ouais.
Cette femme, cette jeune femme, elle fait son métier comme une fuite un petit peu en avant. Elle n'est pas tellement consciente de la compagnie dans laquelle elle travaille, enfin ces compagnies low cost à bas prix, même si des syndicats l'alertent et les alertent.
Mais tu trouves que les conditions sont bonnes ?
Je sais pas, j'ai besoin de travailler, donc je travaille.
T'as besoin de travailler, c'est un métier formidable, même pas dans des conditions pareilles, quoi. Regarde dans les autres compagnies.
Oui, mais bon, les conditions, c'est pareil partout. Il y a toujours des imperfections, des choses à refaire.
Mais vous connaissez les conditions de travail dans les autres compagnies ?
Mais si, par exemple, si tu es malade, c'est ce que vous êtes payé ?
Je sais pas, j'essaie de l'être le moins possible. Je me couvre.
Je crois qu'il est vraiment temps de bouger. En plus, ce qui est phénoménal, c'est que cette grève a lieu partout en Europe. Vous êtes basé où ?
Je sais pas. Moi, je suis basé à Lanzarote, mais j'ai pas trop le temps de faire la révolution.
Allez discuter avec vos collègues. Il y a vos collègues qui sont en grève aussi à Lanzarote. Allez voir un peu avec eux. Ils vont vous expliquer. Moi, je suis certain que si on ne fait rien, ça va être de pire en pire, cette compagnie.
Oui, mais bon, après, je sais pas. Moi, je crois pas trop au changement. Quoi qu'il arrive, si on n'a pas le même âge, on ne va peut-être pas faire les mêmes sacrifices, ou j'en sais rien.
Pas trop, changement, ça veut dire quoi, ça ?
Ça veut dire que là, j'ai un vol et que j'aimerais bien aller le prendre.
Oui, mais pour l'avenir ?
Pour l'avenir, je ne sais même pas si je vais être vivante demain, donc là, je veux juste rentrer dans mon vol, en fait.
Emmanuel Mar, c'est fou comme cette différence de discours, on ne sait pas qui on est, cette fille n'a aucune conscience du monde dans lequel elle vit, finalement.
Moi, je pense pas qu'elle est, elle est pas consciente. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est plus le même monde, en fait. Enfin, c'est ce que disent les syndicalistes est vrai, mais pour toute une jeunesse aujourd'hui, avoir un salaire, ça existe même plus, en fait. Donc, il y a aussi Cassandre, elle a la franchise du désarroi aussi, face à ça. Elle dit pas, il y a aussi ce décalage entre les luttes et c'est ça qu'on voulait dans cette scène, c'est que les deux discours tiennent. Après, moi, j'aime bien aussi qu'elle a ce côté d'indocilité parce qu'elle pourra envoyer foutre entre guillemets ses syndicalistes, mais au bout d'un moment, elle a aussi ce rapport-là avec la vie. Elle est pas dupe, en fait. C'est-à-dire qu'elle est pas conscientisée, mais elle est pas dupe.
Et en plus, elle a un trauma qu'on découvre assez vite, hein, qui est la mort de sa mère. Donc, elle fuit cette Cassandre ou pas, Adèle Exarchopoulos?
Moi, je pense que il y a tous un endroit peut-être où on fuit un petit peu. Après, c'est vrai qu'elle fait partie d'une jeunesse contemporaine où tout se consomme. Aujourd'hui, on consomme tout très rapidement. On a peut-être, il y a tout un paradoxe, c'est-à-dire qu'en même temps, on est peut-être plus conscient de la mort qu'avant, donc on a un peu envie de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, on a envie de pas avoir de regrets, on a un élan collectif, etc., et presque un peu révolutionnaire, et en même temps, enfin, en tout cas, c'est à mon opinion, mais en même temps, on a un besoin de racines et de sécurité en même temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit les conditions de travail de Cassandre ou le monde dans lequel elle vit, c'est-à-dire les applications, comment on consomme les corps, les sentiments, les relations, oui, etc., tu peux vite te perdre si tu cherches un peu de sens à tout ça et de sacré. Et je pense qu'elle se laisse se perdre là-dedans parce que oui, c'est peut-être au début une fuite. Et en même temps, elle se cherche. Je pense, moi, ce que j'aime dans ce film et ce que j'aime dans le travail de Emmanuel et de Julie, c'est que c'est plus des questions que des réponses. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de conclusion. Et pour moi, c'est souvent plus ça qui compte, en fait. C'est la question que la conclusion, quoi.
Constance Meyer, vous avez soutenu ce projet de Rien à Foutre.
Au CNC.
Au CNC. Oui, en fait,
j'ai ma maîtresse avec moi.
Oui, enfin, j'avais lu son traitement à l'époque.
Oui.
Et j'avais adoré.
Et comment vous trouvez le film maintenant, après avoir lu le traitement, justement ?
Très, très réussi. Et en plus, je vois, comme j'ai vu tous les courts-métrages d'Emmanuel, je vois une vraie continuité. Alors, je crois que c'est la première fois que tu co-réalises.
Ouais. Non, enfin, oui. Le D'un château l'autre, c'était déjà pas mal fait à deux. Mais...
D'accord. Mais non, il y a un vrai. Enfin, il y a une unité dans son travail, il y a une évolution, c'est hyper intéressant.
Ce titre, il est venu tout de suite, Rien à Foutre, Emmanuel Marre.
Dès le départ, on a dû un peu le changer de temps en temps pour le tournage, pour des questions de. Pour pas avoir de problème, mais.
Mais rien à foutre de quoi alors? Personne n'en a rien à foutre de rien.
Mais en fait, moi,
cette époque, t'en as rien à foutre.
C'est comme dit Adèle, au début, nous, on a senti un truc, c'est que ça devait s'appeler Rien à Foutre sans savoir exactement pourquoi, comme on a fait le film d'ailleurs, où on veut aller quelque part, mais on sait pas où. Et en fait, c'est marrant parce qu'on était à un café l'autre jour avec Julie et on entendait une jeune femme qui venait de se faire larguer, je pense, et elle disait à ses potes, mais rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Et en fait, elle en a tout à foutre. Oui, et en fait, le rien à foutre, c'est cette espèce de geste un peu de panache d'une génération qui à la fois avoue sa fragilité et à la fois essaye de se défendre aussi, en fait. Et après, à contre-courant, c'est aussi le rien à foutre du néolibéralisme qui n'en a là pour le coup rien à foutre et des employés et des usagers, comme toute personne a pu le ressentir sur un vol Ryanair, par exemple.
Mais alors, pardonnez-moi, puisqu'on est au sens des mots, Cassandre, quand même, c'est pas comme Isabelle ou Martine, quoi. C'est un peu lourd. Hein. Elle annonce quoi?
C'est grec.
Alors, bizarrement, oui, Cassandre, c'est très simple, c'est parce que en Belgique, dans les années 2000, c'était la mode de donner des prénoms mythologiques et que moi, ça me faisait penser à plein de jeunes femmes belges que j'ai vues. Ouais. Et ce qu'on trouvait joli, justement, c'est qu'en fait, elle a, sans le savoir, elle a un poids sur les épaules, et en même temps, on n'avait pas besoin à ce que ça serve à un truc symbolique, quoi.
Et Cassandre fantasme un peu son métier, d'ailleurs, le raconte à ses amis, un petit peu comme tout ce que les gens imaginent de ce métier.
Et des fois, t'as pas envie de te poser
Ouais, mais en même temps, chaque journée est différente, tu vois, je m'ennuie jamais, je rencontre des gens différents toute la journée. Ça, dans la même journée, je peux voir et la neige et le soleil, j'ai de la chance quand même.
Et du coup, tu t'attaches à personne?
Non, personne.
C'est vrai?
Non.
Mais c'est quoi l'intérêt de voyager si tu rencontres personne?
Je rencontre des gens, j'ai des colocs quand même, je rencontre, mais j'accepte que les gens, bah, je les aime pendant 2 heures et puis après, salut. Est-ce que vous
avez... Non, mais tu peux pas parler d'attachement.
Ah, on est encore là-dessus.
Mais oui, il y a son enfant.
Là, c'est avec des acteurs professionnels ou pas, Emmanuel Marre?
Bah, c'est comme on fait, nous, on mélange tout, en fait. Il y a des amis, il y a des non-professionnels. D'ailleurs, la personne qui joue le père de Cassandre est un des producteurs de films qui avait pas demandé à jouer dedans. Et on mélange les amis, les gens dont c'est le métier dans la vie et aussi des vrais comédiens. Donc là, vraiment, dans cette scène-là, il y a un peu de tout, ouais. Mais elle est importante, cette scène, parce qu'elle nous parle de un peu de tout ce qui nous a liés pendant tout le tournage sur la, c'est marrant, c'est un film sur un métier, mais c'est aussi un film sur l'attachement, en fait. C'est un film sur l'attachement, le détachement et voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on a essayé de pas tomber dans les travers du film un peu pesant sur le métier, quoi. Aussi parce que l'attachement, c'est aussi la tendresse, c'est aussi c'est aussi beaucoup la tendresse, ouais.
Qu'est-ce que vous tirez de cette expérience? Parce que c'était un peu dingue, hein. C'est une scène non professionnelle, c'est vol en avion, vous vous maquillez toute seule, c'est vos propres vêtements, c'est une expérience très particulière, ce film.
Ouais, ce que j'en retiens, je le savais déjà, mais je pense que ce qui compte, c'est quand tu fais les choses avec le cœur, quitte à ce que ce soit à l'arrache, en fait. Et que moi, je sais que je trouve qu'il y a, quelque chose pas forcément d'urgent dans tous les premiers films, mais c'est un premier film aussi, vous? un premier. Ce que j'aime, en tout cas moi, dans les premiers films, c'est qu'on est tous là, je trouve, pour les mêmes raisons. Il y a quelque chose qui a du sens, qui est un peu sacré. On est là par conviction, on est là par foi, et du coup, il y a quelque chose de très vertigineux, mais en même temps de très... J'aurais jamais le mot qui va me venir, mais bon.
Vous n'en avez pas rien à foutre.
Non, je n'en ai pas du tout rien à foutre.
Ouais. Pourquoi elle, d'ailleurs? Parce qu'au début, vous pensiez peut-être à une véritable hôtesse. Pourquoi elle, celle-là, cette actrice-là, Adèle Exarchopoulos?
Très simplement parce que là, pour être honnête, c'était un peu la seule actrice qui nous intéressait, vu qu'on n'est pas spécialement fan d'acteurs et d'actrices. Oui, c'est à la base. Ouais.
C'est dit.
Non, c'est dit. Non, vraiment, il y avait.
Pourquoi vous n'êtes pas fan d'acteurs et d'actrices à la base?
Parce qu'en fait, moi, mon rêve, c'est de faire des films où je prends des gens que j'aime et je les fais se rencontrer. En fait, c'est ça mon rêve. C'est juste d'être dans la vie, puis voilà.
Mais acteur, c'est un métier pourtant. Vous n'avez pas besoin de gens qui savent.
C'est sûr que le...
Non, mais vous voyez, qui connaissent la pratique. Après... Qu'est-ce qui vous intéresse chez les autres, finalement, que n'ont pas les acteurs?
Mais qui ont aussi les acteurs, en fait.
Oui.
Mais simplement, c'est juste que là, le travail qu'on demande est un peu différent. C'est-à-dire que, après, ce qui est important, c'est que, enfin, Adèle, elle a une endurance une endurance incroyable, et puis aussi, enfin, c'est marrant de discuter sur le plateau, et c'est la seule personne que j'ai rencontrée qui me disait, mais en fait, moi, mon personnage, j'accepte parfaitement de pas le construire, de pas savoir où il va, de revenir, tout ça, parce que c'est toi qui m'avais dit, est-ce que dans la vie, on sait vraiment où on va? Est-ce qu'on réalise tous ses buts? Est-ce qu'on dévie pas? Et puis là, je vais passer la pommade, mais pour moi, c'est super important. C'est, en fait, avec Adèle, il n'y a que des interprètes sur le plateau. Il n'y a pas de professionnels, il n'y a pas de non-professionnels. Dans un sens comme dans l'autre, on ne regarde pas les non-professionnels avec une espèce de condescendance en les aidant, en les trouvant merveilleux parce que c'est des vrais gens. On peut être dur avec eux aussi. Et en fait, il y a juste des interprètes. Et ça, c'est assez merveilleux. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que... tourner avec moi et Julie, c'est compliqué parce que moi je termine pas mes phrases et que Julie allait me faire précise. Donc déjà rien que cette endurance là de tenir ça, c'est non mais je... puis à un moment je sais pas, on rencontre quelqu'un, voilà, il est 10h du mat dans un café et puis quelque part on dit ah merde, ça y est, je l'ai trouvé.
Adèle Exarchopoulos, vous n'avez pas de plan de carrière, mais c'est important pour vous de participer à un film qui raconte un peu notre société?
Sincèrement, je cérébralise pas forcément ce genre de choses. Je sais que quand j'ai fait les choses par stratégie, je me suis souvent retrouvée pas très heureuse.
Oui.
Très vite, je me suis dit waouh, j'aurais dû m'écouter. Donc j'ai pas de plan de carrière. Je marche plus à la fois. Si je lis quelque chose ou que je rencontre quelqu'un et que j'y crois, je sais que quoi qu'il arrive, même si ça donne pas ce que j'avais anticipé, j'aurais aucun regret.
Cette fille a des rêves. Des drôles de rêves par rapport à sa carrière, on l'écoute.
En fait, le plan, il est simple. Là, je viens de finir un an chez Wing. Je passe chef de cabine. Après, je passe le recrutement pour Emirates. Je rentre chez Emirates.
Emirates, c'est dur.
Je rentre chez Emirates. Je passe 3-4 ans à Dubaï.
Oui, mais tout. Ouais, bah, d'accord. Mais oui, c'est le plan parfait, mais... Toi, c'est parce que tu parles combien de langues, déjà?
4.
Ouais, voilà, c'est pour ça. Moi, par exemple, c'est impossible. Ils me prendront jamais. C'est pas si facile que ça. Hein.
Et toi, du coup, tu lâches déjà l'affaire, en fait?
Bah, non, mais...
Du coup, tu t'inscris même pas, tu... Voilà.
Mais non, mais... Enfin, c'est pas ça, c'est que...
Bah, t'as envie ou t'as pas envie?
Bien sûr que j'ai envie. Bah, tu crois que c'est pas mon rêve de me balader avec un tigre à Dubaï, de...
Bah, si
d'avoir un dauphin dans mon jacuzzi.
Bah, si tu vas avoir un dauphin et un tigre, pourquoi... Mais vas-y.
Mais parce qu'il faut être plus tout, faut être plus belle. Le sourire, c'est plus dur. Elles sont plus chic, elles sont plus classe. Faut... Tout est plus compliqué, c'est pas Wing.
C'est pas Wing. Emmanuel Mar, on n'a pas parlé effectivement de la deuxième partie du film, qui est plus lente, parce que c'est un retour aux sources, à la famille. Et c'est très important, parce que le vrai voyage qu'elle fait, cette hôtesse de l'air, c'est au retour dans sa famille.
Bah, oui, il y avait cette idée. Déjà, il y a beaucoup d'hôtesses, quand on a travaillé avec Julie, qui nous ont parlé de pourquoi elles étaient devenues hôtesses. Et il y avait souvent des grands accidents de vie qu'elles essayaient d'effacer. Donc il y avait déjà cette première partie, cette idée-là qui était très forte. Et puis, oui, après, je crois que c'était aussi quand c'était important que ça ralentisse.
Oui.
Voilà, on fait le contraire de ce que les gens veulent. En général, un film doit accélérer, nous, on ralentit.
Et, vous faites rien comme tout le monde, de toute façon.
Ouais. Mais par contre, il y a cette idée juste de l'attachement, de retrouver juste de retrouver là où on vient, de retrouver son père qu'on n'aime pas forcément, mais en même temps qu'on aime énormément, qui est-ce qu'il est, de juste retrouver le contact physique avec sa sœur, de parfois juste de se prendre dans les bras ou de discuter avec une cigarette, et c'était pour nous, il y avait cette idée quand même très très forte aussi de ce personnage qui en fait d'une certaine manière, on n'aime pas du tout les films thérapeutiques avec un ou psychologiques, mais il y a quand même cette idée d'un personnage qui avait passé son temps à abandonner et qui d'un coup apprend à quitter.
Oui.
Ce qui est pas exactement la même chose en fait.
Grand film, grande interprète Adèle Exarchopoulos dans Rien à foutre qui sort le 2 mars.
Rentre au mieux, tu vas pas rester dehors.
Mon vieux.
Ah oui. Oui. Vous voulez un café?
Non, merci.
C'est quoi votre nom déjà?
Aïssa.
Ah, c'est joli, ça. Vous pouvez vous installer là-bas, c'est l'endroit de la Lou.
Ok.
Il vous a donné les clés?
Oui, j'ai tout, il m'a tout donné.
Et vous conduisez bien?
Oui.
Vous arrêtez pas au feu orange? Non, parce que j'aime pas qu'on s'arrête alors, ben, t'en fous.
D'accord.
J'ai l'impression que c'est Depardieu qui part. Première rencontre entre Georges, star fatigué, Gérard Depardieu, et cette jeune agent de sécurité, Aïssa. C'est vous, Déborah Lukumuena, dans ce film robuste, deux personnages, deux univers, deux solitudes. Et comme pour Emmanuel Marre, il y a une image à la base de ce film, Constance Meyer, qui vous est venue, entre un homme et une femme.
Ouais, c'est une image un peu étrange, mais elle me poursuivait. C'était, j'avais en tête un homme qui s'évanouissait, un homme robuste qui s'évanouissait dans les bras d'une femme, un peu comme une sorte d'image un peu inversée de, je sais pas, d'un truc galant.
Il parlait d'un tableau de Hopper, et vous aussi c'est un tableau presque.
Ouais, un peu.
Oui, pas de Hopper.
Non. Une image inventée un peu en fait.
Ouais.
Après, c'était aussi... Et puis, en fait, cette image, elle a aussi correspondu à l'envie de faire se rencontrer deux acteurs. Ça, c'était vraiment un peu aussi à l'origine de l'écriture de ce film. Donc voilà, je voulais que Gérard et Déborah se rencontrent à l'image.
Deux corps robustes et derrière, beaucoup de fragilité.
Oui.
Chez les deux.
Mmh.
Depardieu, vous le connaissiez.
Oui.
Vous avez été son assistante.
En fait, j'ai été son oreillette. Je lui ai soufflé son texte il y a très très longtemps. Je l'ai rencontré... en fait, au départ, je voulais faire de la mise en scène de théâtre. Et j'avais réussi à avoir un stage sur une pièce de théâtre dans laquelle lui jouait. Et je lui ai fait répéter son texte pendant toute la pièce. Et puis à la fin, ils ont décidé de lui mettre une oreillette. Donc pendant 5 mois, je lui ai soufflé son texte tous les soirs, pratiquement. Et je pense que c'est un peu aussi ça qui m'a plongée, propulsée dans le cinéma, parce que en fait, en écoutant un acteur parler et comment dire incarner des mots comme lui, ça m'a envoûtée un peu. Et voilà.
Souffler des mots à Cyrano, c'est pas mal, hein, comme profession. Hein.
Ouais, c'était des mots de Duras. C'était une pièce de Duras. Je sais pas. Ouais, je pense qu'il y a. En fait, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre souffler un texte à un acteur et devenir metteur en scène? Je crois que c'est un peu... Il y a une sorte de pont entre les deux, quoi.
Donc il vous fait confiance, parce que c'est une sacrée prise hein, d'avoir Depardieu pour un premier film.
Après, j'ai... En fait, ça, c'était il y a très longtemps. J'avais 21 ans, donc c'était il y a plus de 15 ans. Et en fait, après, j'ai fait des courts-métrages avec lui, parce que j'ai fait une école aux États-Unis.
L'école de Spike Lee.
Exactement. Et donc c'est un peu une collaboration qui s'est entre guillemets une collaboration parce que mais voilà ça s'est tissé au fil de 3 courts-métrages et après j'ai écrit ce long pour Déborah et Gérard et voilà.
Justement pour Déborah et Gérard, pour Gérard Depardieu, vous vous inspirez de lui mais c'est pas complètement lui ce Georges, c'est un mélange des deux, il n'aurait pas accepté que ça soit complètement lui Depardieu, j'imagine. Vous inventez un Georges qui serait Gérard Depardieu sans être Gérard Depardieu.
Ouais, c'est un peu difficile à expliquer. En fait, je pense que en le fréquentant pendant ces dernières années, ça a nourri un imaginaire de personnage, d'acteur, voilà, extrême, exubérant, et en même temps avec ses fragilités, puisque voilà,
et seul aussi,
et sa solitude.
Ouais.
Après, j'ai projeté tout un tas de choses qui m'appartiennent à moi, qui appartiennent à mon univers, donc. Donc j'ai évidemment j'ai souvent été confrontée à des gens qui m'ont demandé si c'était un documentaire sur Depardieu. C'est pas du tout un documentaire sur lui.
Mais à la fois, ça raconte beaucoup de choses sur lui en même temps. Donc c'est pas idiot comme question.
Non, bien
maintenant
sûr.
Chaque film est un documentaire sur Depardieu en même temps. Désormais, comme c'est une légende.
Exactement.
Vivante, quoi.
Oui. Ouais. Bah c'est en fait souvent ce que je réponds, c'est que en fait, de toute façon, Depardieu n'a jamais été un acteur qui s'est fondu dans les rôles. Il les enveloppe, il les dévore et il les transcende complètement. Donc j'avais pas de problème à lui créer une sorte de double en me disant bah en fait je peux aller peut-être chercher plus de choses de son d'une intimité d'un personnage qui n'existe pas si je lui crée un personnage sur mesure qui lui ressemble un petit peu en fait.
On va écouter cet autre échange entre vous, Deborah Lokomouena, sacré truc hein, d'avoir à donner la réplique à Depardieu.
Ça sert à rien si court à la con.
C'est bien que vous me préveniez quand vous partez, votre avocat vient de me passer en savon.
Et alors ?
C'est moi qui suis responsable, j'ai promis à la loue.
Responsable ? J'ai pas besoin qu'on me flic. J'ai pas un enfant. Et personne ne vous oblige à rester. Hein.
Personne m'oblige, mais moi j'aime faire mon travail. Le faire bien.
Moi non. Moi j'aime faire chier, moi.
Là encore, on a l'impression que c'est Depardieu, pardon, qui parle, hein, Constance, mais... ça a été comment cette association de malfaiteurs entre Depardieu et vous?
En fait, ça a été beaucoup plus doux qu'on ne le pense. Forcément, j'étais confrontée au fait d'être possiblement impressionnée par lui, mais comme je le répète souvent, il a eu assez de classe et m'a laissé beaucoup d'espace justement pour que je puisse me hisser à sa hauteur entre guillemets pour ce film-là. Donc, du coup, je l'ai vu sous toutes ses couleurs, mais j'ai vu la place qu'il m'a laissée et l'espace qu'il m'a laissé. Et c'est aussi à l'image de notre première rencontre, c'est-à-dire que la première fois que je le rencontre, c'est chez lui, il est en jogging et j'arrive, et il me dit tu veux un café et je dis non, mais pourquoi pas un thé? Il me regarde avec des yeux abasourdis. Il me dit un thé. Il se tourne vers Constance, il dit bah fais-lui un thé. Et c'est comme s'il disait bon bah je vais t'accepter tel quel.
Oui.
Tu bois du thé, donc voilà.
Vous avez dit que vous aviez gagné 10 ans en le voyant jouer même.
Oui, je trouve qu'il y a une enfin de tout ce que j'ai appris avec lui, il y a une espèce de sérénité et de liberté à laquelle il m'a donné envie d'aspirer. Et comme il m'a tellement décomplexé quant à l'erreur et quant au fait de pas être parfait tout de suite et justement de profiter de ses failles et de ses erreurs, je trouve que dans l'exercice, ça me fait gagner beaucoup de temps, effectivement, ouais. Et je reste empreinte beaucoup parce que j'ai tourné après. Et je reste empreinte, justement, de cette empreinte-là, en fait, qu'il m'a laissée. Et finalement, il m'a rassurée sur pas mal de choses. Jouer avec lui et l'avoir en face et avoir cet homme qui s'est bâti sur ses imperfections finalement, c'est très rassurant et je trouve que c'est hyper formateur. J'ai fait le conservatoire avant où ça m'a beaucoup complexé quant à la perfection, quant au fait d'être correct, quant au fait de bien réciter des alexandrins. Moi j'avais aucun... je suis rentrée au conservatoire après Divine, j'avais aucun répertoire, j'étais avec des gens qui avaient fait 50 Florent, je connaissais pas Tchekhov, je le découvrais, tout le monde me regardait comme ça en disant je connaissais pas Tchekhov et tout, etc. Et rencontrer Gérard, justement, ça m'a décomplexé quant à ça, justement, parce que même si il a fini par avoir un parcours, il a fait ses lettres, etc., c'est quand même un monsieur qui a entré aussi d'une manière un peu plus sauvage dans le cinéma.
Oui.
Et ça m'a décomplexé, il m'a donné envie d'être moins propre, de pas aspirer au fait d'être lisse, mais j'y arriverai jamais. Non, mais j'y arriverai jamais parce que je ne rentre pas dans les codes qui permettent d'être lisse, en fait, de ce cinéma-là. Donc, pour résumer, il m'a rassuré sur le fait de pas rentrer dans les codes.
Constance Meyer, comment vous saviez que ça allait marcher entre ces deux-là? Parce que c'est complètement improbable, hein, comme duo.
Bah, je savais pas. c'est un peu le pari, enfin, c'est un petit défi, mais après, je savais pas, mais moi, je croyais dans cette rencontre et en fait après, j'ai quand même assisté à leur première rencontre comme si c'était un peu la validation de mon écriture, de ce que j'avais imaginé. Et en effet, quand elle a demandé du thé et qu'il l'a regardé avec des yeux ronds, ce que j'aimais bien, c'est que je voulais un petit peu que ce soit comme deux animaux qui se découvrent. Et qui a un truc un peu comme deux personnes un peu sauvages qui appartiennent à leur solitude, qui ont un univers commun sans vraiment le savoir. Et j'avais besoin d'un truc un tout petit peu mystique et un petit peu atmosphérique entre ces deux personnages.
Voire stratosphérique, Depardieu.
Ouais, oui, ça. Et en fait, quand je les ai regardés, ils ont lu quelques petits bouts de scène, parce que je voulais pas que ce soit une vraie lecture. Moi, en fait, je m'en foutais un tout petit peu de comment ils disaient les mots, tout ça. C'était vraiment un prétexte pour les regarder, se regarder et se parler. Et en fait, ça m'a suffi.
Double enjeu pour vous, Déborah Lecomala, c'est aussi Depardieu et apprendre la lutte.
Oui, oui, effectivement, il y a ce sport en fait qui est le pivot central dans le personnage d'Aïssa, et c'est un sport particulier parce qu'il est très physique, c'est-à-dire que les combats de lutte, ça se passe sur 20, 30 secondes, et c'est horrible, cardiaquement. C'est vraiment, c'est ça. Donc, j'ai fait 2 mois de lutte, justement.
Vous avez hésité à prendre le rôle à cause de ça?
Non, pas du tout. J'ai pas une seule fois hésité. C'est-à-dire que j'ai reçu le scénario, et tout de suite, on m'a dit que ça serait avec Gérard, et je connaissais pas Constance. Et du coup, je l'ai lu, et comme je raconte souvent, en fait, j'étais à la recherche de la déception. Enfin, du truc de travers, du cliché et tout, etc. Et j'arrive à la fin et je me dis, elle m'a pas déçue, donc je monte à bord. Et du coup, ça m'a fait accepter la lutte aussi.
Constance, mais il y a la lutte comme métaphore de quoi?
Ça aussi, c'est pareil, c'est pas des choses que j'ai vraiment intellectualisées avant. C'est juste que j'aime bien les sports de combat et j'aime bien les regarder à la télé. J'y connais pas grand-chose, mais c'est un truc que j'aime bien regarder. Et bien sûr, après coup, je me dis, il y a un peu une métaphore aussi de... Je me suis dit, il y a un peu une métaphore du jeu d'acteur. C'est deux personnes qui se reniflent, qui essayent de s'agripper, qui essayent de rentrer en contact. Et en fait, la lutte, c'est, il y a très, en fait, assez peu de contact. C'est beaucoup des gens qui se tournent autour et qui se regardent et qui sont voûtés. Et il y a un truc un peu animal comme ça que je trouvais beau. Mais je vous avoue qu'au moment d'écrire, je savais pas du tout ça, en fait.
Alors, vous lui faites répéter ses textes, parce qu'il doit tourner, même s'il fuit tout le monde, il fuit les sièges de costume, les cours d'escrime, enfin tout. Et donc, scène, très belle scène entre vous deux.
Catherine, privons-nous d'un commerce dangereux et dont nous n'avons pas besoin. Rentrez. Il fait trop froid.
Je ne puis renoncer à vous aimer.
Je tombe.
Levez-vous, je vous en supplie. Et peut-être, au bout du chemin, nous rencontrerons-nous encore.
Mon âme, auparavant si tranquille, mes mains qui travaillaient dignement, que sont-elles devenues? Me voilà donc vaincu, timide et esclave. Me voilà donc vaincu, timide et esclave, comme un enfant. Seigneur, aidez-moi. Aidez-moi, j'implore votre aide. Je veux creuser la terre et m'y plonger pour toujours.
C'est bien, vous connaissez bien.
C'est un peu lourd quand même, vous trouvez pas?
Je sais pas, je m'y connais pas trop en scénario.
Oui, bien sûr, vous, votre truc, c'est la sécurité.
Oui, c'est ça.
Et vous n'avez pas d'autre envie? Vous voulez faire quoi dans la vie?
Ça? APR?
Ah non. Sécuriser des périmètres, des... Tout ça, ouais.
Vous jouez, moi je sécurise des périmètres.
Constance Meyer, une belle scène comme ça, plusieurs prises?
Je crois qu'on a fait 3 prises. Après c'était un champ contre champ, donc il y avait 3 prises... sur l'un et 3 prises sur l'autre. Non, mais bon.
On entend beaucoup la respiration de Gérard Depardieu.
Ouais. Moi, ça, c'est un truc qui. Alors, moi, j'adore sa respiration. Ouais. C'est. Enfin, il y a vraiment à boire et à manger dans sa respiration.
Mais c'est le cauchemar de François.
Au sens propre.
Plus l'un que l'autre. Mais c'est le cauchemar du preneur de son, ça.
Pas du tout.
Non.
Alors Jean-Pierre.
C'est comme des dialogues, sa respiration.
Bah, en fait.
C'est des états.
Bah oui, c'est. Il joue avec sa respiration parce que c'est son cœur. C'est relié à son cœur.
Oui.
Donc, bon, en plus, son cœur, c'est un peu un sujet du film parce qu'il a mal au cœur, il a la tachycardie, tout ça. Non, c'est hyper important, mais la voix de Déborah et la voix de Gérard, c'est presque un peu les personnages du film, en fait, pour moi. Et avec, bon, évidemment, il y a de l'image, hein, bien sûr, je ne veux pas.
Mais ce sont deux instruments, clairement.
Ouais, vraiment. Et c'est comme deux instruments qui apprennent à s'accorder, et c'était très important. On a eu des discussions avec l'ingé son avant, vraiment, avec Jean-Pierre Duret, qui est vraiment incroyable. Hein. Il a une carrière au cinéma.
Voilà. Assez impressionnante.
Et puis, il participe vraiment à la mise en scène, donc c'était très intéressant de parler avec lui. Et donc, voilà, c'était les voix, les respirations, capter chaque petit détail.
Robus, c'est ni une histoire d'amour, ni une histoire d'amitié. C'est deux personnes qui vont savoir se regarder.
Oui, c'est une rencontre. Et comme dans la vie... souvent, c'est des rencontres, c'est parfois ni de l'amour ni de l'amitié. C'est une sorte de mélange de voilà. Là, c'est une rencontre à la fois professionnelle qui est à la fois donc à distance et en même temps qui rentre dans une sorte d'intimité un peu étrange parce qu'ils partagent un quotidien. Et c'est ça que j'avais envie de raconter, c'est-à-dire deux personnes qui se rencontrent, qui se croisent, qui se reconnaissent, qui apprennent à se regarder, qui c'est une très légère inflexion dans leur trajectoire, mais cette inflexion, elle est très importante. C'est-à-dire que c'est pas des grands chamboulements flamboyants et des retournements de situation de fou, mais on sent que ça a eu un impact très fort sur leur vie, quoi.
Alors, le 2 mars prochain, il y a deux films importants à voir.
Eh ben, vous irez deux fois au cinéma cette semaine-là.
Allez voir Robus, Constance Meyer et Rien à foutre, Emmanuel Mar. Merci à tous les quatre de vous rester avec nous. On se retrouve pour les sorties après Juliette Armanet, Vertigo.
Non, me regarde pas dans les yeux. Je veux pas que tu vois que j'y vois que toi dans les deux. Que je tiens plus très droit. Moi, sans toi, j'ai l'air un peu louche. Mine de rien, je tiens pas bien sûr.
Les parents d'Adèle viennent de se rendre compte qu'elle était à la radio. Donc,
aussi,
bonjour monsieur et madame Zarkopoulos, bonjour. On va parler des films. Cette semaine, Un autre monde de Stéphane Brisé, un cadre d'entreprise, l'un dont sa femme, sa famille, au moment des choix professionnels de l'un, font basculer la vie de tous. Cadre performant dans un groupe industriel, il ne sait plus répondre aux injections incohérentes de sa direction. Il est assez unique, ce duo Brisé-Lindon. L'acteur se plonge dans la vie des autres, se met à leur place, prend leur colère et s'entoure de vraies personnes dans de vraies situations, mais filtrées par le cinéma. Alain Cavalier dans Pater imaginait l'hypothèse, Brisé, lui, la concrétise, Laurent.
Oui, alors, j'ai lu un de mes petits confrères qui dit que c'est l'alliance de Sauté et de Loach. Comme si dans Sauté, il n'y avait pas de social et dans Loach, il n'y avait pas d'intime. C'est assez curieux de trouver des choses comme ça. C'est en fait plutôt du Brisé. Bon, voilà, enfin, il faut espérer que ça soit du Brisé, parce que le film est signé par lui. Donc, et du Brisé, c'est quoi? Ben, c'est une sorte quand même d'humanisme cheville au corps. Hein. C'est vraiment la déclaration humaniste poussée à ses extrêmes. Ici, il s'agit bien de nous dire que même les cadres sont victimes de la crise en cours et que tout est crise aussi, avec par exemple cette formule... qu'on pourrait presque voir chez Lelouch, tout est précaire aujourd'hui, l'amour est précaire, la santé est précaire, le travail aussi. Bon, d'accord, ok, très bien, on a dit ça comme ça. Et après, qu'est-ce qu'on dit d'autre? C'est ça, où est l'autre monde, au fait? C'est la question qu'on peut se poser. Si c'est uniquement la vie familiale qu'on nous promet comme une sorte d'Eldorado, on peut se dire un peu déçu. Alors je vous conseille quand même la lecture d'un livre aux éditions Leitmotiv sur le couple Brisé Lindon. C'est un ouvrage très intéressant de Quentin Victory Lédier, même s'il est plus analytique que critique. Mais ça vaut le coup par rapport à ce couple, effectivement, de cinéma.
Piccolo Corpo, c'est un premier film d'une Italienne qui s'appelle Laura Samani, Italie 1900. Le bébé de la jeune Agatha est mort-né et ainsi condamné à errer dans les limbes. Il existerait un endroit dans les montagnes où son bébé pourrait être ramené à la vie le temps d'un souffle pour être baptisé. Agatha entreprend ce voyage et rencontre Lynx qui lui offre son aide. Ensemble, ils se lancent dans une aventure qui leur permettra de se rapprocher du miracle. Laura Samani a découvert, comment appeler ça, cette folle coutume dans sa région du Frioul-Vénétie, et donc elle se sert de ce terrifiant et magnifique argument pour aborder à la fois la maternité, la sororité dans ce road movie qui est un chemin de croix d'une femme qui va aller au-delà de ses forces contre les traductions machistes. Et ce qui est vraiment beau dans ce film, c'est le mélange très réussi entre réalisme et mythologie, cette façon de vous faire croire aux deux dans une mise en scène sublime et qui ne lâche pas sa protagoniste, son incroyable résistance jusqu'à cette fin miraculeuse. Ça s'appelle Piccolo Corpo.
Oui.
Une cinéaste est née.
Absolument. On va pas peut-être l'ensevelir, mais enfin, sous les hommages. Mais on pense d'abord à Alice Rohrwacher, je trouve, dans ce mélange que vous disiez de réalisme et de sacré et de poésie. Et puis, peut-être au-dessus, Rossellini, Pasolini. Enfin, voilà. Oui, effectivement, une cinéaste italienne est née. Ça fait beaucoup de bien de voir cette fable, ce conte qui s'appelle Piccolo Corpo.
Et elle aura sa manie. Les affluents de Jesse Michelli, une photographie de la jeunesse cambodgienne, leur rend trois portraits aux accents queer et naturalistes.
Oui, alors ce qui est étonnant, c'est que le réalisateur est français, mais effectivement, il tourne au Cambodge, et c'est un film uniquement sur Phnom Penh, ses rues, ses nuits, son paysage urbain, ses touristes aussi, beaucoup. Il y a une justesse absolue, une sorte de ton documentaire qui rattrape un peu le flottement parfois du jeu des acteurs qui ne sont pas des acteurs professionnels et qui, comme ils ne sont pas dirigés par Emmanuel Maher, mais parfois ça flotte un peu. mais néanmoins, le film est plein d'intérêt, plein justement de cette ville et plein de ce pays. Donc on retient pour cela les intentions absolument magnifiques du film.
La vraie famille de Fabien Gorjard, dont on avait beaucoup aimé Diane à les épaules. Encore une femme au centre de son film, une mère d'accueil, c'est Mélanie Thierry, qui considère comme son troisième enfant ce petit garçon recueilli à l'âge de 18 mois et désormais âgé de 6 ans comme son propre fils. Nous sommes au début du film et son père biologique, c'est Félix Moati, désire le récupérer. Le film raconte ce déchirement, celui qu'a vécu la propre mère du réalisateur avec ce petit frère accueilli pareil dans les mêmes conditions et jusqu'à 6 ans, une famille pleine d'amour donc. Idéalisé à l'image, idyllique scène de jeu, de fête ou de petit déjeuner ricoré. On voudrait tous en faire partie de cette famille. Bon, là, c'est le cœur dur qui parle. Et puis, au centre, il y a cette actrice Mélanie Thierry, l'émotion pure, comme l'a titré Télérama cette semaine, capable d'exprimer sur son visage toutes les palettes de sentiments devant ce cruel dilemme, Laurent.
Oui, je crois qu'il faut retenir Mélanie Thierry et oublier le reste qui est un ramassis de clichés de pub assez incroyables sur la famille.
Nous, c'est un documentaire d'Alice Diop, une ligne lignes du RER B traversées du nord vers le sud, des rencontres, une femme de ménage à Roissy, un ferrailleur au Bourget, une infirmière à Drancy, un écrivain à Gif-sur-Yvette et le suiveur d'une chasse à cour en vallée de Chevreuse.
Oui, oui, c'est tout à fait étonnant cette façon qu'a Alice Diop de s'emparer de cette question. Le « nous », je crois, nous travaille beaucoup en ce moment, en cette période d'élection présidentielle. On va beaucoup en parler, on en parle tous les jours. Et cette radiographie à travers, effectivement, cette banlieue, région parisienne où on croise ses habitants au quotidien qui sont à la fois, effectivement, des chasseurs à cour et puis, évidemment, des anonymes, des membres de la famille de la réalisatrice. Tout ça fait un portrait, je dirais, craché, juste, vraisemblable de la France d'aujourd'hui. On peut considérer que c'est insuffisant, on peut considérer que les analyses sociologiques sont trop limitées, mais la présence du sociologue Pierre Bergugnou permet de valider tout ça. Et puis, et à titre personnel, évidemment, je dirais qu'un film qui se termine par « Ma France » de Jean Ferrat ne peut pas être un film foncièrement mauvais.
On va jumper sur Media Crash, qui a tué le débat public de Valentine Auberti, Luc Herrmann. Jamais la France n'a connu une telle concentration des médias privés, au détriment, bien sûr, de l'information d'intérêt public.
Salutaire dénonciation, bien évidemment. Après, on peut toujours se poser la question des journalistes qui réfléchissent sur les journalistes. Ça crée une sorte d'effet de miroir sur lequel il faudrait un peu s'interroger. Parfois, il y a des approximations, parfois, il y a des raccourcis, voilà. Mais bon, tout débat en cours est à traiter. On imagine le nombre de séances de ciné-club que ça va donner dans les salles de cinéma, et de ça, on ne peut que se réjouir.
On va terminer avec la révélation d'une cinéaste japonaise. Elle s'appelle Kinuyo Tanaka. Et on sort 6 films d'El Carlotta, sort 6 films inédits.
Bravo, ça découle du Festival Lumière à Lyon, qui avait programmé cette cinéaste des années 50 et qui est d'ailleurs à l'origine d'abord une actrice de Mizoguchi Dozu, et dont Bette Davis disait « Je suis la Tanaka de l'Amérique ». Voilà, ça veut tout dire. Et en tant que réalisatrice, elle a fait des superbes mélos au féminin et des mélos féminins un peu à la Douglas Sirk, avec vraiment, vraiment une attention au sort des femmes qui est tout à fait étonnante pour cette période-là.
Et pour finir, on a un petit peu de temps, on va offrir des cadeaux à nos invités.
Mais oui, alors à nos deux actrices présentes sur le plateau, on va offrir 2 livres, les mêmes. Le premier, ça s'appelle Actrice sorcière, c'est un message à l'intention de Déborah et d'Adèle. Il est signé Thomas Téland. Vous allez voir, c'est un très très beau petit essai sur effectivement toute une série de ces actrices qu'on aime évidemment beaucoup, Dahl, Argento, Jeanne Moreau, Tilda Swinton, d'autres encore. Toujours chez Capricci, alors là, la publication d'un inédit, c'est L'art du jeu d'acteur. Bon, vous n'avez rien à apprendre toutes les deux, d'accord, mais c'est signé Stella Adler. Il y a 22 leçons d'actorat. On vous les donne aussi, hein, Déborah, ne vous inquiétez pas. Cette femme américaine, ben elle a juste formé, excusez-moi du peu, Brando, De Niro, Hervé Keitel et quelques autres. C'est tout à fait passionnant quand même sur effectivement comment faire naître chez l'acteur encore un peu plus de jeu, encore un peu plus d'allant dans la façon d'interpréter ses personnages. Ces 2 bouquins tout à fait passionnants, tout à fait cinéphiles, ben ils sont donc édités chez Capricci, qui décidément rehausse le niveau de l'édition cinéma en France.
On merci. On est ensuite pour les cadeaux.
Et ben 20 secondes. Alors ça sera pour Emmanuel Mar, Le Salaire du Diable de Jack Arnold avec Jeff Chandler et Orson Welles. C'est chez Rémini et c'est sec et c'est nerveux. Et puis chez Constant. Et puis pour Constant. Meyer, pardon, un chef-d'œuvre de Gilles Grangier, d'après Simenon, dialogué par Audiard avec, s'il vous plaît, Jean Gabin, c'est Le Sang à la tête chez Pathé, un bonus illustré par Bertrand Tavernier, on ne s'en lasse pas.
Merci vraiment, Constance Meyer, merci Déborah. Merci Adèle Exarchopoulos, merci Manuel Mar. Rien à foutre au bus, sorti le 2 mars. Merci à Lorraine Thomas, à Claire Destacan, nos 2 belles réalisatrices, Christophe Magère pour la préparation, Thierry Dupin pour la musique. Au revoir.